essayer de vous sensibiliser, je m'adresse aux candidats, à une question de portée générale. Comment cette minute? Ah non, cette seconde, d'accord. Une question de portée générale qui vaudrait pour le canzoniere et peut-être dans son ensemble, de l'illustrer en tout cas à travers l'exemple singulier du poème que je souhaite regarder de plus près, en suggérant une ouverture sur une source possible, restée, je crois, jusqu'à présent inaperçue, et inaperçue peut-être par un processus de refoulement qui me paraît assez fréquent dans le champ des études pétrarchiennes. En d'autres termes, la question générale pourrait s'énoncer comme suit. Comment lever un peu mieux le voile sur ce que l'inventeur du classicisme...
Pardon Philippe, puisque tu n'as pas... Il paraît qu'on ne t'entend pas très bien. Alors est-ce que...
Est-ce qu'on entend mieux en rapprochant? Peut-être parce que ce matin ça...
Est-ce que vous entendez?
Oui, vous m'entendez? Oui, non?
Alors, pas...
Oui, bon.
Il n'est pas tout le monde. Un peu mieux, ok.
D'accord.
Ouais. Je t'en prie.
Donc voilà, parce que l'inventeur du classicisme, Pétrarque, nous dissimule sciemment, à savoir des pans entiers de la culture dans laquelle il a baigné, et plus spécialement des productions de son temps qui ont pu le marquer en profondeur. Alors, il y a là quelque chose comme un effacement qui pourrait bien constituer en réalité la condition de possibilité même du surgissement de la nouveauté. Et cela comporterait peut-être une réévaluation. Je ne sais pas jusqu'à quel point profonde, mais de la bibliothèque de Phébus, étudiée il y a déjà pratiquement deux décennies par Luca Marcozzi, ici présent, malheureusement pour tout le monde. Alors, quelques rappels à présent sur la sextine en général, mais je vais faire quelque chose parce que, comme j'avais coupé, je m'aperçois que j'ai imprimé de façon invisible et je vais en fait prendre mon écran et prendre le fichier retravaillé, sinon on en a pour une heure et je serai coupé avant, à juste titre. Voilà, donc excusez-moi, juste un instant. Et je vais travailler avec le... pas fait la vérification, hélas, dans la hâte. Hier, des préparatifs. Et je vais donc, voilà, procéder comme suit. Pardonnez-moi, j'espère que le temps me sera décompté, monsieur l'arbitre. Un petit peu long. D'habitude, un peu plus réactif. Voyons, voilà. Pardon. Donc, je désactive ça. Voilà, j'y arrive. Hein. Il y avait un petit peu de patience encore. Je ne sais pas pourquoi cet appareil qui commence à vieillir. Là. Voilà. J'agrandis un peu. Non, j'y suis, hein, je vous promets que j'y suis. Donc, voilà. Essayez de penser un peu différemment, vous allez voir la révolution pétrarchienne sur une base qui renouvellerait aussi l'appréciation d'un concept importantissime chez Pétrarque, dont on pourrait ou pourra reparler, celui d'imitation, hein, autre grand problème longuement médité par notre auteur. Alors, je vais commencer par quelques rappels sur la sextine en général, qui, vous le savez, est d'origine provençale, et cette forme naît comme variation singulière du schéma de la chanson, de la canzone, et baptisée sextina, après qu'avec Pétrarque, qui la désigne encore comme chanson dans l'envoi de 237 au vers 38, Canzonnata di notte in mezzo ai boschi, une autre boschereccia, en somme, et après qu'avec Pétrarque, elle s'est définitivement autonomisée. Le terme sera officialisé en quelque sorte par Bembo dans les procès de la Volgar Lingua. En France, c'est entre au milieu du XVIe siècle que le mot s'acclimate, inaugurant une tradition qui est encore à l'honneur de nos jours en France aussi. On pense d'abord au poète mathématicien oulipien Jacques Roubaud. Je ne m'attarde pas sur le procédé de la rétrogradatio cruciata, vous le connaissez, mais les formules des oulipiens me plaisent assez. Vous comprendrez pourquoi. Mutation en spirale, la définissait Raymond Queneau, et Jacques Roubaud précisait permutation, on précise permutation en spirale. Hein, une telle caractérisation découle à l'évidence de la façon dont reviennent en une inexorable progression enroulée sur elle-même les mots rimes qui sont les véritables charnières du sens. J'en viens à Pétrarque. Avant que me pencher sur le morceau singulier, une ou deux autres considérations indispensables quant à la méthode. Nous devons à la fois tenir compte, comme pour chaque pièce des Rerum vulgarium fragmenta, du macrotexte dans ses articulations du plus proche au plus lointain et vice-versa, et du fait qu'avec Pétrarque s'inaugure une série aux caractéristiques propres. Sur ce dernier point, notre poète initie en effet, pourvu qu'on l'extrait du tout, une suite aux dimensions inusitées. Les prédécesseurs et inventeurs du maître, autrement dit Arnaud Daniel et Dante, n'en avaient composé qu'une chacun. L'ensemble pétrarquien, ça a été rappelé ce matin, comprend 9 pièces, 8 dans la première partie, une seule mais sous la forme inédite, hors norme d'une sextine double, la 332, dans la seconde. Incidemment, hein, pourquoi cette présence quasi exclusive dans la première partie, caractéristique qu'elle partage avec les deux autres genres mineurs, la ballade et le madrigal. Quel type d'appropriation par Pétrarque, pour quel contenu et quels effets de sens? L'envoi bien particulier de la sextine, puisqu'elle est constituée de 6-6-1, plus un envoi qui est intercès, ne faisant que reparcourir les jalons que sont les mots rimes, n'est-il, ce genre métrique, que l'image en abîme de l'éternel retour du même, de l'impasse amoureuse, de la prison passionnelle, prison qui est le corps dans les Rerum vulgarium fragmenta, série d'exemples possibles, mais le corps est justement le siège des passions terrestres. Et sur cette question, Luca Marcozzi a aussi écrit des choses fort importantes dans son Petrarca Platonico. Alors, mais le corps, voilà. Alors, est-ce que c'est seulement, comment dire, avec la sextine 332, la mort morale et spirituelle qui s'ensuit, est-il condamné, ce genre métrique, à l'adunatone, à la figure omniprésente, comme modalité de l'impossibilité d'en sortir et emprunt rhétorique le plus évident au précédent dantesque de Petrosi? Sinon, quelle possible refonctionnalisation? Et c'est aux fins de cette réflexion que je ferai allusion aussi aux autres exemplaires du genre, dont notre sextine, je le remarque, est à sa manière le centre dans la série finale, puisqu'elle est la 5e sur 9, et je vais y chercher des éléments d'un système d'écho spécifique constitutif des temps et tant de niveaux de connexion dont se tisse la trame du quinconce. À présent, quelles considérations séquentielles ou syntagmatiques plus circonscrites? La première canzone, comme la définissait Pétrarque, on disait, des Rerum vulgarium fragmenta, est une sextine, hein, qui porte le numéro 22. Et elle est aussitôt suivie de la première chanson proprement dite pour nous, la 23, la célébrissime et importantissime chanson des métamorphoses qu'aucun candidat à l'agrégation ne peut ignorer, on l'a déjà compris ce matin. La fonction de telle composition est, on le sait, d'être à la fois des paliers récapitulatifs et des moments préparatoires aux développements à venir. C'est donc à un seuil constitué de deux moments distincts que nous avons à faire, avec 22 et 23. Après la séquence stilnoviste et largement cavalcantienne de l'amour destructeur des sonnets 17, 19 et 21, eh bien, est décrite dans ce seuil la condition paradoxale dans le monde animal de celui dont la passion fatale, butant sur la sauvagerie de l'aimé, ne connaît pas de trêve, sans que pour autant cesse jamais le fermo désir, je souligne l'adjectif fermo, et l'imagination fantasmatique, bien que sans espoir, d'une nuit d'amour sans fin par quoi se clôt le poème. Puis, dans la chanson qui suit, l'exaspération du même désir. Hein. Il en a été question, la feravoglia, où revient par hypallage l'adjectif employé dans la sextine pour la dame elle-même, qui fait l'objet, donc, dans la chanson 23, d'une sorte de reconstitution historique où de ce désir sont successivement reparcourus les délétères pouvoirs métamorphiques, culminant dans la dernière strophe. On en a parlé rapidement ce matin, je n'y reviens pas, mais qui sont empreintes d'une sensualité exacerbée, à peine dissimulée sous le voile des références mythologiques. Sa qualité de chanson seuil sera soulignée du reste par la reprise de son vers initial « Nel dolce tempo, la prima estate » en clôture de la fameuse chanson des Incipits, la 70, nouveau seuil très marqué, ouvrant avec la suite d'ampleur inédite des trois cantilènes et oculorum une nouvelle phase du chemin que propose d'arpenter le canzoniere, mais nous allons en entendre parler demain, de cette suite, avec Sabrina Stropp. Dans la tâche, il faisait allusion il y a un instant, la première phase d'élaboration en livre du recueil des fragments à la rédaction Correggio, 1356-1358, c'est à une semblable juxtaposition qui est soumise notre sextine, de manière tout aussi nette. Alors, je n'entre pas dans le débat parce que aucune compétence pour le faire, bipartition, pas bipartition, ça devient une position un peu minoritaire aujourd'hui, peut-être dans la discussion, on pourra y revenir et Natacha nous donnera les arguments qui la portent à penser que ce qui est séduisant du reste, enfin, ça me plairait bien, à penser qu'elle était effectivement bipartie. En tout cas, une fois advenue de façon certaine la bipartition à partir de la forme suivante, la Chigi, connue à partir de la copie bocassienne du Fragmentorum Liber, hein, c'est Boccace qui l'appelle livre, la deuxième pièce sera séparée de la première, c'est-à-dire 264, 142 pour l'ordinamento finale, de la première par l'adjonction à la suite de celle-ci de 32 sonnets, finissant par le très important 189, qui est un autre seuil, passe à la nave mia colma d'oblio, dans ce qui devient la première section du recueil. Et la chanson 264 sera dès lors immuablement placée en tête de la seconde partie, ce qui en fait un second point de départ dans tous les sens du terme, je ne développe pas. Il faudra donc réfléchir à ce que veulent dire la dislocation des deux éléments du diptyque, les nouvelles proximités séquentielles. Je peux néanmoins observer que la contiguïté initiale suggère le lien entre, d'une part, l'aspiration à l'autre voie, l'autre sentier pour aller monter au ciel, je vais en reparler de manière un petit peu distaite, ça, et de l'autre, une sorte de retour en arrière, de lucide examen de conscience, de processus introspectif à visée pénitentielle. Je suis frappé du reste par le fait qu'en la relisant, il me semble qu'elle est traversée, cette chanson, d'autres réminiscences dantesques et qui sont plus marcatement et purgatoriales. Hein, c'est un point sur lequel je voudrais revenir, parce que je pense qu'on ne regarde pas non plus assez du côté du purgatoire pour ce qui est du rapport infiniment compliqué de Pétrarque à Dante. Alors, bref, la continuité initiale suggère cela, hein, un processus introspectif porté par la confiance dans le Christ, qui rend de plus en plus urgente la mutatio animi, mais, vous savez, c'est un cheminement qui reste irrésolu, hein, au sens propre du terme. Cela même que condense l'admirable dernier vers, « E vejo il meglio e al peggior m'appiglio ». Irrésolution, dont le secret tout composé dans les mêmes années, se faisait en ces dernières lignes le reflet, il en a déjà été question, on ne peut pas en parler. Ou de la délibération sans décision, dans cette chanson qui anticipe ainsi à grande distance la dernière du recueil, dernière avant l'hymne marial, mais la dernière véritable chanson, la 360. Et c'est ainsi que se trouve encadrée, d'une certaine manière, la deuxième partie des Redum Vulgarum Fragmenta, l'histoire en tout cas qu'il raconte avant le tournant final, la suite finale dont on parlait Massimo tout à l'heure. Hein, d'une certaine façon, on a 264-360, hein, pour ce qui est de l'histoire de l'âme. Alors, je vous propose de regarder de plus près à présent la sextine 142, à la Dolce Ombra delle Belle Frondi. Deux tattations, il y en a une qui est traditionnelle, qui la voudrait composer lors du troisième séjour à Fontaine de Vaucluse, entre 1345 et 1347, ou bien, pour cette poésie aussi, autour de 1350. C'est l'hypothèse Santa Agata. Après la mort de l'or, comme ça arrive souvent, du reste, hein, vous devez vous en souvenir constamment, hein, on a parlé de la série du Pressentimento ce matin, hein, qui est composée manifestement post-mortem, hein, et qui se trouve néanmoins dans la première partie, improprement appelée depuis une main... In vita, Bon, ce sont des choses donc, auxquelles il faut faire attention. Je parle aussi comme ancien correcteur de devoir de CAPES ou agrégation sur Pétrarque, ou de In vita, in morte. Bon. Vous y allez, enfin, éviter d'ailleurs, tout simplement, de vous référer à cela. Et donc, 142 se trouve, je parlais de micro-séquences, après les sonnets 140-141, qui sont une réélaboration du thème de la mort d'amour. Et le nouveau poème, 142, met en scène, y compris formellement, l'histoire d'une course, d'une fuite au vers deux. C'est aussi une fuga, une fugue, aussi au sens musical, mais enfin, dans une analogie très, très vague là pour l'instant, à l'issue d'abord non prévisible. Sous le signe du laurier, de ses belles frondi, de ses leggiadri rami, censé d'abord mettre le poète à l'abri de la passion amoureuse en lui fournissant leur ombre protectrice, c'est en effet une quête qui finit par s'avérer vaine, un perpétuel mouvement qui ne peut être que transitoire et partant illusoire. Quels en sont les points de repère? Fions-nous, pour une explication de texte qui ne se veut pas exhaustive, aux principaux, à savoir les mots rimes. On a trois concrets. Frondi, poggi, rami. On remarquera leur distribution régulière dans la première strophe de deux en deux. Deux concrets, lum et cielo, mais susceptibles de se charger immédiatement, symboliquement, de valeurs abstraites. Et un abstrait, tempo. Donc, préparé que nous sommes par la récurrence du thème depuis le tout début du canzoniere, on subodore le rôle clé qu'il sera amené à jouer. Lorsqu'ils sont termes pivots de syntagmes nominaux, il faudra évidemment être très attentif, et comme toujours chez Pétrarque, à l'adjectivation, hein, comme donnée contextuelle immédiate des procès de sémantisation. Le terme sémantiquement le plus stable, proposé sans adjectif qualificatif, est poggi. Il est celui qui fournit, au fond, la coordonnée spatiale de base des déplacements incessants du jeu, de son errance physique, une errance qui rappelle aussi les pistes à la 2-16, enfin, bref, les rapprochements ont déjà été faits. Quant à elle, les références au monde végétal, Frondi et Rami, donnent lieu à un jeu de variations bien précis. Elles renvoient soit au laurier, l'or, et ils se font alors emblème, soit au végétal en général, on remarquera non seulement l'antériorité et la prévalence du premier cas de figure, hein, il y a un rapport de 2/3 à 1/3, laurier l'or, et puis le végétal en général, mais aussi le fait que le passage d'une valeur à l'autre est souligné par des proximités procédurales, au vers 6 et 7, la liaison entre deux strophes par... cap caudadas, voilà. Et puis bon, on les retrouve associés. Quant aux adjectifs, pour la première valence, celle du laurier l'or, belle, leggiadri, verdi, bei, primi, pour bien repréciser leur fonction originelle, et queste, je reviendrai sur le déictique qui évidemment comporte une dimension temporelle. Et puis on a l'étonnant et très connoté invescati, à côté de toute cette série, hein, belle, leggiadri. Enfin, amati. Pour la seconde valence, nos substantifs sont dépourvus d'épithètes. C'est le végétal en général, si vous voulez dire. Lume et cielo, tous deux de même nature, sémantiquement voisins, prennent d'emblée, je le disais, des significations symboliques, ne désignant que rarement leur simple référent naturel et agissant du reste sur leurs occurrences apparemment naïves. La palette est riche. Pour lume, il est d'abord celui du ciel de Vénus, de la passion amoureuse. Il est à ce titre dispietato. Lume sera ensuite le soleil naturel en 17, mais pesamment connoté toutefois par l'adjectif superno. Puis il sera par deux fois, en un glissement remarquable, ayant son point de départ dans le feu ardent de la passion, le tropusuel, désignant les yeux de l'or, le mot emblème des vers 21 et 31. Et respectivement, à ce moment-là, soave et chiaro et dolce. Enfin, il sera la lumière à laquelle donne accès la conscience éclairée par la raison, voire, et peut-être mieux, par la grâce, venant donc s'insérer entre les deux dernières occurrences avec lesquelles il entre en concurrence. Pour Cielo, j'ai déjà parlé de la première occurrence, troisième ciel, hein, le sens vénusien, mais il s'est infiltré, repris au début de la troisième strophe, mais entre les deux s'infiltre un plus générique et simple ciel, étroitement couplé au suivant, là aussi par la rime Capcaudada, figure d'une puissance transcendante, mettant en œuvre ici aussi un ressort concurrentiel de la variation. à l'intérieur même du poème. Valeurs qui semblent se mêler au vers 20, où l'occurrence se fait plus vague, mais l'indécision pourrait bien être fonctionnelle, répétant ce que nous avons constaté avec Loumé, à la fois l'or, son emblème, et un principe supérieur qui renvoie à une transcendance céleste, avec, comment dire, part de flottement, d'indétermination. Quelques vers allusifs se chargent alors d'un contenu vaguement énigmatique. Enfin, après le ciel, des révolutions astronomiques du vers 28, c'est bien un ciel christianisé, celui de l'au-delà à quoi l'âme aspire, qui, faisant écho à la lumière du vers 30, clôt la ronde des six uns au vers 35. On voit que l'adjectivation définit presque exclusivement ce qui renvoie à l'or et que son absence, quand elle n'est pas neutre comme pour les Poggi, indique un ordre de réalité autre, ontologiquement nettement distinct. Mais c'est le mot tempo, l'abstrait de la série, qui constitue le pivot, disons, idéologique de la composition. Alors, sur la composition, la conception pétrarchienne du temps, je n'y reviens pas, je renvoie pour la deuxième fois de la journée à l'excellente voce de Luca dans le Lessico Critico Pétrarchesco, dont je fais la promotion, je profite pour faire la promotion, donc voilà, mais il y a d'autres écrits, on pourra compléter la bibliographie, hein. Malgré tout, enfin, j'ai signalé déjà ce matin en ouverture que sur la question, Enrico, qui nous en a reparlé abondamment, a dit des choses, écrit déjà des choses très importantes, et notamment en analysant des poèmes en particulier, fondamentaux de ce point de vue-là, enfin bon, bref. Alors, que voulais-je dire ? Il y a primo tempo au vers 9, qui renvoie à la rencontre avec l'or. Mais il est employé sans adjectif, pour dire successivement la saison, les mutations induites par l'écoulement du temps, opposées au vers suivant à la constance, la fermeté du désir amoureux, fermo, qui rappelle encore une fois l'attaque de la Sextine d'Arnaud Daniel, lo fermo voler, quel cor m'intra, ainsi que le Dante Petroso, ou encore la pétrarchienne Sextine 80, en son incipit, pour devenir le temps comme une sorte d'absolu métaphysique, loi universelle qui implique le caractère absolument transitoire de toute chose ici-bas, avant qu'une quelque peu mystérieuse coordonnée spatio-temporelle, moi je n'ai pas la clé, de loco et tempo au vers 34 ne vienne clore la série. Voilà donc pour la polysémie des mots rimes, leur degré variable de resémantisation, fruit de la perpétuelle et virtuellement indéfinie recontextualisation dans le souci de couper. J'ai coupé une belle citation, mais je la citerai tout à l'heure, de Sonia Gentili dans ce livre sur les listes médiévales où plusieurs personnes ici présentes ont apporté leur contribution. Il y a deux ou trois contributions sur Dante, mais il y a, dont celle de Sonia sur la Sextine, qui dit des choses importantes. Je la citerai pour conclure tout à l'heure. On remarquera que les deux dernières occurrences de tempo sont liées à un changement, cela dit, une rupture même dans le régime des temps verbaux. C'est une question capitale chez Pétrarque, on l'a compris, en particulier dans toute sa production lyrique. Donc, encore une fois, bon, les remarques qui ont pu être faites. En effet, les vers 25 et 26 marquent un premier tournant en nous exposant au présent, ce qu'on appelle en français le présent de vérité générale, la loi immuable de la caducité du monde naturel. Les cinq éléments d'une nature très pétrarquienne, hein, dans le vers 25 qui a déjà été cité ce matin. D'où la décision de demander pardon au présent, souligné par le déictique Queste du vers 27, en vue d'une résolution qui en est l'effet. Résolution qui consiste à se détourner des rami, désormais invescati, et nombreuses, comme vous le savez, sont les occurrences dans le canzoniere de Vischio, cette glue, que métaphorise assez bien du reste le schéma métrique de la Sextine. On parlera des lacets, du filet, du labyrinthe, etc. La glu aussi, hein. Une sorte de glu métrique, cette Sextine de laquelle on ne peut pas sortir, qui colle. Et donc, curieusement, cela dit, cette résolution est présentée à l'aoriste au vers 29 et 30 comme un acte de la volonté qui serait déjà ancien. Dans ces années où Pétrarque cherche à antidater, c'est le cas aussi de la familière 4.1, hein, de l'ascension au Ventoux, ça, mutatio animi, voire début d'une conversion. Logiquement, la dernière strophe s'ouvre au passé simple pour condenser en trois vers l'histoire amoureuse du poète, avant qu'un nouveau présent de vérité générale, encore plus sentencieux et essentiel, la vita è breve, me fasse du vers 34, obsession évidemment pétrarchienne, le moment du tournant final et définitif, vers un présent subjectivisé, mostranmi du vers 35, qui prépare l'envoi de la chanson. Donc sous l'effet du temps, de la prise de conscience du temps, du sentiment d'urgence lié à la menace permanente de la faim, à l'inéluctabilité de la mort, voyez morte le Sabrina Stroppa dans le, toujours le dictionnaire, de ce sentiment du temps, et puis Pétrarque et la morte, un livre important qu'elle a publié il y a quelques années, hein, de ce sentiment du temps qui distingue tant et tant de poèmes di Canzoniere, il sera le thème d'ouverture de la chanson 264. Les cartes vont être complètement rebrassées dans l'envoi, qui reproduit rigoureusement, ou la tantum, l'ordre structurel de la récurrence voulue par la rétrogradation. L'adjectivation joue un rôle décisif. Et c'est justement un dernier adjectif qui va nous intéresser à présent. Il y a été fait allusion à plusieurs reprises, déjà Enrico ce matin. Cette épithète, cet altro, adjectif indéfini, disent les grammaires et les dictionnaires, répété ici 7 fois à partir du vers 35, puissant connecteur, non seulement avec la chanson 264 et son altro lagrimare du vers 4, mais avec rien moins que le sonnet 1 lui-même, celui dont on doit garder la mémoire tout au long de la lecture et dans le sillage duquel il vient s'inscrire. Et puis, nombreuses autres occurrences d'altro, on n'a pas le temps, mais voilà une recherche qui mériterait d'être menée. Cet adjectif, dit Bettarini, bloque la variation. Non porteur de qualité précise, il ne dit, j'ajouterai, que la différence. Il ne dit rien d'autre que la différence. Mais ce qui se cache comme possible détermination positive sous altro ne peut qu'aller de pair avec la monstration par le nouveau lume de l'autre sentier, celui qui doit mener au ciel et pour lequel le temps presse, ne ben tempo, un calque du vers 52 de la sextine double, mal nommée, hein, de Dante. De sorte que on a pu avancer un rapprochement, premier ami, dernier mot du texte, avec quelle pietose braccia in chio mi fido, dit le jeu qui les voit encore aperte. Ce sont les vers 14 et 15 de la chanson 264. Les bras du Christ sur la croix, et par métonymie, la croix elle-même, déjà mentionnée en clôture d'un autre sonnet anniversaire, le 3e sur 16, le 62, adressé au padre del ciel, invoqué pour son lume, où le poète, contre le ferro desio, qui pourrait être fermo aussi, amoureux qui le fait vaneggiare, sonnet 1, qui renvoie au séminaire, et qui l'a pris dans ses filets, l'arrête, adresse au Seigneur un miserere, dont il espère qu'il lui permettra de se vouer, en se remémorant la passion, la croce, dernier mot du poème en question, 62, à altra vita et à più belle imprese. Et par un effet rétroactif, l'autre amor, placé en début de tercet, est celui pour le Christ, et non plus pour l'or, comme l'altro lume, ce ne sont plus ses yeux, mais la lumière de la grâce, celle du Christ guide, et même si les autres rapprochements sont peut-être moins évidents, on a évoqué, et encore il y a un instant, la couronne d'épines pour les altri frondi, le mont Calvaire en général pour les altri poggi, et il est vrai aussi que la contrainte de la sextine et du jeu de ses variations implique ces moments d'intermination. Mais il y a une quête, hein, cerco, est un verbe avec l'accento di prima dans l'envoi qui... Extraordinaire renversement donc des pouvoirs de la sextine, qui est inauguré, à vrai dire, avec la prière qui clôt la sextine 80, qui est fermato di menar sua vita. Et donc, soupçon, très fort, évidemment, de la, en même temps, de l'invention de ce qui va devenir un véritable genre, une refonctionnalisation. Et il n'y a rien de tel dans la sextine, sauf à être contredit par Sonia qui l'a étudié dans le. Dans la dantesque, al poco giorno, al gran cerchio d'ombra. Il me vient alors un soupçon. L'idée de la métamorphose est évidemment ovidienne en général. Anne-Marie le sait bien, qui a consacré sa thèse à la question. Et Pétrarque, malgré quelques réticences à l'égard d'un auteur lascif, la récupère à son tour après tant d'autres, dont Dante bien sûr. Mais la moralisation, car c'est sur ce point que je voudrais formuler une hypothèse, à ma connaissance inédite, l'état ovidiana. C'est ainsi que l'on désigne la période d'extraordinaire engouement que connut au XIIe siècle et encore au siècle suivant l'auteur des Métamorphoses. Avait produit hors littérature stricto sensu quelques textes remarquables à l'influence profonde et durable. Je pense ici à la série des Ovides moralisés, dont l'un des avatars pourrait être pour Pétrarque de quelque importance. Je souhaite évoquer rapidement celui de son ami de jeunesse et tardif correspondant, Pierre Bersuire, connu à Avignon peut-être déjà dès la fin des années 20, Puis, dans les années 30 et début des années 40, Pétrarque en parle en termes très élogieux dans Trois lettres de la vieillesse, notamment la 16-7, où il y a cet épisode extraordinaire de ce jeune homme qui vient le trouver, comme on allait trouver Tite-Live, on venait de toute l'Italie pour trouver Tite-Live, et qui se termine par l'épisode absolument hallucinant de l'aveugle de Pontremoli. Le grand délire narcissique pétrarquien que les pétrarquistes de stricte obédience me pardonnent un petit peu. Mais bon, et donc, comme on venait voir Tite-Live, ben, parmi ceux qui venaient là, Pierre Bersuire. Tite-Live a une petite importance, vous allez voir pourquoi. Il lui adresse deux très importantes lettres familières, la 22-13 et la 22-14. Après leur rencontre à Paris, fin 60, début 61, Pétrarque conduisait une ambassade auprès du roi Jean II le Bon, dans l'entourage duquel Pétrarque Bersuire faisait partie, à l'occasion voilà, de la libération du roi Visconti, Jean Galéas Visconti l'envoie à saluer et à proposer la première partie de la rançon. Bref, ce clair, Petrus Birko, Pictaviensis de Poitiers, est connu comme premier traducteur en français de Tite-Live, et on imagine mal qu'avec Pétrarque, qui invente sur Tite la philologie moderne, n'ait pas échangé un peu autour de l'historien romain. Mais, pour le présent propos, il est aussi et surtout auteur d'une somme monumentale en latin, le Reductorium Morale, œuvre encyclopédique commencée à Avignon, puis reprise à Paris à partir de 1342, date où il se transfère dans la capitale du royaume. Composé de 16 livres, le 15e, l'avant-dernier, s'empare à sa manière d'une tradition déjà bien établie, celle de la moralisation de la poésie ancienne, ovidienne en l'occurrence, par laquelle l'on tentait de rendre les fables païennes compatibles avec la doctrine chrétienne. Alphonse X le Sage, qui a en quelque sorte inauguré dans son histoire générale la tradition, parlait de la Bible des gentils, hein, c'est les métamorphoses. Je ferai donc l'hypothèse d'une lecture par Pétrarque de la rédaction primitive de L'Ovidius Moralizatus de Bersuire. C'est ainsi qu'on appelle ce livre 15 du Reductorium, qui circule aussi de manière autonome, ou en tout cas de conversation à ce sujet. Et deux autres amis de Pétrarque, je n'ai pas le temps d'approfondir, mais étaient du reste concernés de près par ces moralisations, Dionigi Borgo Sansepolcro, le destinataire de la lettre du Ventoux, et Philippe de Vitry, autre correspondant français de Pétrarque, extrêmement important, à qui on a pu attribuer d'ailleurs un ovide moralisé en prose, rien de moins sûr, mais enfin bon, bref. Une moralisation des métamorphoses, l'Ovidius de Bersuire, qui s'ouvre à l'enseigne de Pétrarque en son prologue, où est rappelé l'ekphrasis des portraits des dieux peints sur les parois du palais du roi Numide de Syphax au livre 3 de l'Africa, morceau que Pétrarque lui avait communiqué, il a eu ce privilège en l'autorisant à le diffuser. Et donc il est cité. Et en général, quand on parle de Bersuire, on s'arrête là. C'est-à-dire, ah ben oui, Pétrarque, Laura, etc. On venait le voir, on croit ce qu'il nous raconte dans la 16-7, etc. La Sénilis, pardon. On venait le voir, etc. Et vous voyez quelle est l'importance. On l'inscrit dans la tradition mythographique, Bersuire le cite en ouverture. Mais j'en viens maintenant à quelque chose qui me paraît. Bon, voilà, c'est la proposition que je vous fais. À Ovide, j'en viens à Ovide et au laurier. L'arbre, belle frondi, leggiadri, amatirami, je vous le rappelle. Ce lauro, qui est désigné par son nom propre au vers 13, et qui était le premier mot rime de la deuxième sextine, Giovane donna sotto un ver de lauro, la première au demeurant, sans le nommer la première, la 22, prenait fin par l'expression du désir sans véritable espoir, d'une nuit d'amour sans fin déjà, et sans que l'aimé se transforme, in ver de selva per uscirmi di braccia, come il giorno Capollo la seguia giù per terra. Depuis le sonnet 34, qui ouvrait la, on appelle la prima sillogie de 1342, Apollo s'encore vive il bel desio, ou l'amate chiome bionde, son l'onorata e sacra fronde, vous voyez, le système d'écho, enfin, absolument extraordinaire, dans laquelle le poète se trouve invescato, sonnet 34, le mythe daphnéen et de la transformation de la nymphe en laurier, et ce qui, surdéterminé par le nom de l'or, selon l'aveu même du Secretum, sert de fil conducteur à la construction du mythe personnel, du mythe laurano, dont les fragmenta sont la scène. Il est emprunté au livre 1 des Métamorphoses, mais l'adjectif invescato, qui le connote de manière à coup sûr non classique et moralisante, si l'on veut, montre que l'hypotexte antique se complique d'autres éléments. Ce n'est peut-être pas de la seule invention de Pétrarque. Je rappellerai que le dernier vers du sonnet 34, dans sa version première, celle du Codice degli Abbozzi, avait Rami à la place de Braccia. Hein, façon de jouer avec le Métamorphose 1,550, peu importe. L'hypothèse du canzoniere est donc très largement ovidien, et la qualité macrotextuelle, la nature macrotextuelle du recueil, repose pour une part essentielle sur un tissage de citations qui peuvent même être des quasi-traductions. Je renvoie aux analyses de Picone, et dans un volume qui avait, du reste, qui est dans vos bibliographies, mais qui avait été le fruit d'une question d'agrégation, le chansonnier de Pétrarque, qui a une quinzaine d'années au moins, 16 ou 17 ans, un beau texte de Michelangelo Picone. Mais qu'en est-il donc, hypothèse ovidien, qu'en est-il de la moralisation? S'il faut, à coup sûr, avec Pétrarque, entendre celle-ci en un sens différent, il n'en reste pas moins qu'est attribuée une épaisseur morale au mythe. Et d'où vient, même s'il s'agit de morale individuelle, mais, hein, approximation, d'où vient, comment naît l'idée d'une telle moralisation? Quelles suggestions ont pu déterminer ensuite sa mise en œuvre concrète? Ouvrons donc le réductorium. Au livre 2, on lisait déjà ceci à propos du laurier, « Laurus arbor crucis resistit fulmini ». Non seulement donc, et puis il faudrait reprendre dans le livre 12, qui traite des plantes, hein, là où effectivement il y a toute une série de caractéristiques. Mais vous allez voir, non seulement donc il protège la foudre, et selon Pétrarque du feu amoureux, le fameux trono de Guinizelli, hein, deux fois chez Guinizelli, hein, mais lorsque le mythe des métamorphoses est moralisé, dans ce fameux livre 15, Ovidius Moralizatus, en 15.2, on apprend qu'Apollon, fils unique de Jupiter, est d'abord figure du diable, mu par un désir pécamineux, pour se renverser ensuite en figure du Christ, et que Daphné fut pour lui métamorphosée en laurier, car c'est à partir de son bois que la croix fut fabriquée pour la crucifixion. C'est donc, je cite, traduction, cet arbre, le laurier, c'est-à-dire le bois de la Sainte Croix, que Phébus en personne, sur le plan spirituel, spiritualité, je ne sais pas bien traduire, revendique pour lui-même. D'autre part, le laurier est toujours vert et figure de la virginité intacte, et Daphné est celle d'une pureté sans fin, de la chasteté donc. Autrement dit, l'arbor victoriosa triumphale, l'est triomphale précisément parce qu'elle ne craint pas d'amor visco, olaci, oreti, et qu'elle est, bel tesoro di castita. Vous avez reconnu le sonnet 263, celui par lequel se clôt la première partie, celui qui, dans la version finale, se trouve en contact avec la chanson 264. J'ai cité ces vers 1, 7, 13, 14. C'est le poème qui s'articule, et dont le dernier substantif est précisément chasteté. À partir de là, peut s'engager la transformation de l'image de Laure Daphné en figure mariale, car je suis convaincu que la Vierge Marie de la chanson finale, loin d'être un dépassement radical absolu, est l'aboutissement d'un long processus métamorphique au terme duquel elle conserve maintes traits daphnéens. Il n'y a rien d'original dans ce que je dis. Bon, je n'ai pas le temps, hein, je le fais dans d'autres circonstances, et établir très précisément la chose. Or, selon les Ovides moralisés, Daphné représente la Vierge. Elle est la bienheureuse Vierge qui avait fait vœu de virginité à son père Dieu, et qui néanmoins fut aimée par le Fils de Dieu, et se changea en laurier toujours vert dans la mesure où le vert de sa virginité verdit et dure dans une perpétuelle pureté. Etc., etc. J'ai pas le temps de développer tous les points, mais voilà. Pour résumer, en des termes plus méthodologiques, et avant d'arriver à un dernier petit développement, si j'ai le temps, si on me donne la possibilité. Voilà. À l'exigence de l'attention fine portée à la contiguïté, aux effets qu'elle produit, s'ajoute aussi celle des suggestions qui naissent de la saisie dans le vaste ensemble des fragmenta, avec différentes lignes, différents parcours qu'on peut y suivre, des plus évidentes aux plus secrètes. Et il me semble, justement, percevoir une, dans quelque chose que j'appellerais un Ovide moralisé selon Pétrarque. À propos du texte ovidien, Gorni disait déjà que la forme correggio, résolument laurana, a questa stregua potrebbe leggersi come una compendiosa Métamorphosis vulgare, et j'ajouterai qu'au fur et à mesure des rédactions successives, ce serait renforcer sa nature de métamorphose vulgaire moralisée. Donc, c'est, alors, moralisation, encore une fois, dans un sens bien précis, et j'y viens. Note sextine de ce mouvement, je crois, a constitué un jalon essentiel. Mais de seuil qu'elle était dans la Correggio, elle est devenue étape d'un parcours problématique, sans cesse réactivé dans sa problématicité même. Il n'est que de voir la mini-série des sonnets qui suivent, cette fois, 143-145, qui disent la permanence de la folle pulsion apollinienne primitive, celle du sonnet 6, dans la durée atemporelle d'une mémoire désirante. 145-13-14, sarò qual fui, vivrò come io son visso, continuando il mio sospir trilustre. Alors, Pétrarque médiéval, nous avons vu que dans une forme médiévale, la sextine, Pétrarque coule un contenu médiéval, la moralisation. Mais il y a aussi très visiblement dépassement dans cette forme bien particulière, profondément refonctionnalisée par rapport à ce pourquoi elle avait été inventée. Forme de l'instable stabilité, je vous emprunte à Sonia. De la révolution immobile, c'est le commentaire de Sabrina Astrop dans son commentaire pour son édition Inaud. Elle se met à dire, par-delà la tension du désir se repliant sur lui-même, l'aspiration vers un au-delà de celui-ci. La sextine dantesque exprimait la loi permanente, inhérente à la condition humaine, de la pulsion désirante. Elle devient la forme par excellence de ce que prédispose le sonnet 1. Mais c'est pourquoi aussi la moralisation telle que la conçoit Pétrarque échappe, et on va rentrer dans le débat sur l'allégorie, échappe à l'allégorisation qui en était jusque-là la voie rhétorique obligée. Par opposition, alors il faut se mettre d'accord aussi sur la définition des termes, mais par opposition au récit suivi de l'allégorie médiévale, il me semble que rhétoriquement l'allégorie est un récit suivi qui a son début et sa fin. Nous avons affaire au discontinu du fragment, à sa clôture, son autonomie, et en même temps à sa mise en relation tendue, dynamique et toujours à refaire avec les autres fragments. Et c'est cette dialectique qui nous fait sortir de l'allégorie moralisante stricto sensu. Pétrarque ne dit jamais que ceci est cela. L'adjectif altro, sur lequel j'ai insisté, j'insiste de nouveau, altro. Il ne nous dit jamais que ceci est cela, qui serait le principe même de l'allégorie médiévale. Il nous propose au lieu de cela une mise en scène poétique de la subjectivité en mouvement, non plus seulement figée dans la douleur, on entrevoit la lueur d'une sortie, l'espoir d'une échappée, d'une altérité, non pas celle d'un autre radical qui viendrait, un autre radical qui viendrait occuper la place vacante, mais cela par métamorphose dans l'économie psychique d'un chrétien qui aspire à la mutatio animi, mais qui n'atteint jamais le port final et définitif, la mort étant seule susceptible de... Voilà. L'espoir donc, jamais une certitude, cet espoir qui remplit l'espace de l'intérim, qui par définition ne peut pas connaître de solution définitive, intérim est encore un clin d'œil à Sabrina Strop et à son Pétrarque et la morte et à tant d'analyses qu'elle nous a proposées, y compris une séquence. Alors, je n'ai pas le temps, réfléchis un petit peu à la question de l'espoir, si vous voulez, on pourra y revenir. Je dis simplement que les occurrences de sperare, speranza, et même speme, mais il y a une petite différenciation selon speme, il y a deux ou trois occurrences aussi sous la forme speme. L'espoir, c'est quand même ce qui concerne essentiellement le désir dans le canzoniere. Et les occurrences de speme, comme l'espoir d'un monde miglior vita, si vous voulez, sont très rares en réalité. Je les ai relevées, on pourra revenir dans la discussion. Elle, évidemment, concerne plutôt la fin du canzoniere, etc. C'est en tout cas la sextine, image du labyrinthe dont il paraît impossible de sortir, ou continuer, conduite à refaire une nouvelle fois le même parcours, la 332, virtuellement sans fin donc. C'est à cette sextine que le poète confie la tâche de faire entrevoir la sortie, tout en y demeurant. Il y a ce paradoxe. C'est-à-dire, on sort et on y reste. On aspire à en sortir. Je vous fais entrevoir une lume, en même temps, le principe actif du retour perdure. La sextine 80 tentait déjà la résolution de la pourrie, la sortie de l'impasse par la prière, comme aussi plus tard la 214. La 142 esquisse une voie plus poétique peut-être, poétique ne veut pas dire grand-chose ici, il faudra revenir sur ce choix. Mais ce qu'il nous dit, c'est que c'est un chemin à réactiver sans cesse, à reparcourir sans cesse. C'est l'image de la vie même, selon Pétrarque, du moins à partir de la fin des années 40. Si avant lui, la Sextine est la traduction sous forme poétique d'un espace-temps humain et de son principe de mouvement, c'est-à-dire le désir, dépourvu d'une sortie de secours métaphysique et donc condamné à un infini qui n'est que répétition, sans jamais rencontrer de stase d'apaisement. L'autrice de ces lignes se sera reconnue, c'est Sonia Gentili, à propos de la Petrosa de Dante. Eh bien, c'est paradoxalement, par le détour très médiéval de l'allégorisation, mais transformé en pouvoir de suggestion, que notre poète détourne le genre de son assignation originelle, qui la bloquait, comme aurait dit Bettarini. Tout en lui conservant ses traits primitifs, il lui trouve un point de fuite. Non pas que la vaine répétition du désir pris dans les raies de l'autre et du même et de l'autre, soit d'un coup devenue caduque, mais grâce notamment à de subtiles localisations dans le macrotexte qui comprennent de savantes opérations de dislocation, et l'aporie est déplacée sur la trajectoire elle-même du recueil tout entier, que je n'ose pas appeler livre, puisque Pétrarque ne l'appelle pas livre, et qui dépasse du même coup le piège de l'allégorisme, au moins dans ces trois que je disais. En guise de phrase de conclusion générale, il me plaît de citer Enrico Fenzi. Spero emerga in modo chiaro quanto Petrarca nella sua prima prova impegnativa. Il s'agit précisément du passage de l'Africa consacré à la description des dieux cité par Bersuir au début de son Novidius Moralizatus. Ebbene, spero quanto Petrarca nella sua prima prova impegnativa, quasi la tesi di dottorato, fosse debitore verso la cultura medievale. Quella cultura che egli ostentatamente talvolta, e correggo Enrico, solo talvolta davvero, disprezza, con aperto disprezzo mostra poi di rifiutare, eh bien, pour moi, non seulement ces lignes bientôt quinquagénaires, je parle de deux décennies du Febo de Luca, non seulement ces lignes bientôt quinquagénaires n'ont pas pris une ride, on pourrait y inclure du reste le portrait de Sophonisbe au livre 6 de l'Africa et la tradition entre scolaire et poétique de la Descriptio Puelle, y compris chez un auteur dédaigné comme Alain Delisle que Pétrarque tente à piller. Mais indépendamment même de l'évidence constituée par la tradition lyrique depuis les Provençaux, et c'est un truisme, elles doivent sans aucun doute être étendues, à mon avis, au volet de l'œuvre en langue vulgaire. Gorni, Bettarini, Stroppa en ont donné maint exemple, au premier chef celui du grand-père, Servgarzo, auteur de l'Aude. Et en particulier, Gorni me rappelle, je ne veux pas revérifier, mais une analyse que j'avais trouvée en son temps remarquable sur justement la chanson 366 et ce qu'elle devait éventuellement au grand-père. Eh bien, je vous propose donc une autre piste qui réunit des éléments épars, disséminés, mais qui pourrait aussi avoir un vrai poids structurel sur la construction d'une canzoniere. Et c'est, quoi qu'il en est, quoi qu'il veuille nous faire accroire, un Pétrarque qui serait moins un génie solitaire, ne devant rien à personne d'autre que les écrivains antiques avec qui il converse dans ses diverses retraites solitaires, justement, Pétrarque un peu différent, qui émerge de ce parcours que je vous propose et de cette suggestion concernant une possible source et qui pourrait expliquer, donner une sorte de contenu un petit peu différent, en tout cas de matrice un petit peu différente à ce fameux adjectif « altro » sur quoi se conclut la Sextine 142. Je vous remercie.